Chapitre 4. Il est inutile de dire « je pense que j'étais très vaniteux ». Quel serait le but de la vie aujourd'hui si l'on n'avait pas de vanité ? J'arrangeais donc avec autant de goût que je pus le dîner et la soirée musicale du dimanche. J'achetais moi-même les provisions et fis les invitations. Vers 6 heures, nos invités arrivèrent. Trouchevski vint en habit, portant à sa chemise des boutons en diamant de mauvais goût. D'une familiarité excessive, il répondait toujours avec un sourire d'approbation et d'intelligence, comme s'il eût précisément attendu ce qu'on venait de dire ou de faire. Tout ce qu'il y avait de fâcheux chez lui, je le remarquais avec joie. Cela me tranquillisait, me faisait voir combien il était indigne de l'attention de ma femme et que, comme elle l'avait dit, elle ne pourrait jamais s'abaisser jusqu'à lui. Je réprimai ma jalousie. D'abord, mes souffrances avaient déterminé une lassitude et j'avais besoin de repos. Ensuite, je voulais croire aux assurances de ma femme et j'y croyais. Malgré tout, pendant le dîner et pendant la première partie de la soirée, tant que la musique n'eut pas commencé, mon attitude ne fut pas naturelle à leur égard. Involontairement, j'épiais tous leurs gestes, tous leurs regards. Le dîner, comme tous les dîners, fut ennuyeux. Bientôt la musique commença. Il alla prendre son violon. Ma femme s'approcha du piano et chercha les partitions. Les moindres détails de cette soirée me reviennent. Il arriva avec sa boîte, l'ouvrit, retira la housse brodée par une main de femme et accorda son instrument. Je revois ma femme, s'efforçant de paraître indifférente, mais saisie, je le remarquais bien, par la grande appréhension de ne pas jouer assez bien. Elle s'assit et donna le « la ». J'entends encore les pizzicati du violon. Je les vois disposer les morceaux, jeter un regard sur les assistants, se dire quelques mots et commencer. Les traits du violoniste prirent une expression grave, inspirant la sympathie. Il passa son archet sur les cordes d'un geste brusque, et le piano lui répondit. Polnitchev s'arrêta et fit entendre à plusieurs reprises son bruit étrange. Il tenta de poursuivre le récit, mais s'arrêta encore. Il reprit enfin. Ils jouèrent la sonate à Kreutzer de Beethoven. Connaissez-vous le premier presto? Le connaissez-vous? Oh, oh! Elle est épouvantable, cette sonate. Et ce presto en est la partie la plus terrible. Toute la musique, d'ailleurs, est épouvantable. Qu'est-ce donc que la musique? Pourquoi produit-elle ces effets? On prétend qu'elle élève l'âme en l'émouvant. Stupidité, mensonge! Son effet est puissant, certes, mais je parle pour moi. Il n'élève nullement l'âme, il ne l'élève ni ne l'avilie, il l'excite. Comment vous expliquer? La musique me porte à oublier tout, moi-même, ma véritable situation. Elle me fait croire à ce que je ne crois pas comprendre, ce que je ne comprends pas, et elle me donne un pouvoir que je n'ai pas. Elle me fait l'effet du bâillement ou du rire. Je bâille quand je vois quelqu'un bâiller, je ris en entendant quelqu'un rire. La musique me transporte dans l'état d'esprit dans lequel se trouvait celui qui l'a écrite. Je mêle mon âme à la sienne et je le suis d'un sentiment à un autre. Pourquoi en est-il ainsi? Je l'ignore. Mais lui, le compositeur Beethoven, par exemple, pour la sonate à Kreutzer, savait bien d'où venait cet état qui l'avait poussé à certaines actions et qui, pour lui, avait un sens, une raison d'être, tandis que pour moi, il n'en a pas. Voilà pourquoi la musique provoque une excitation sans résultat. Une marche fait marcher, une danse fait danser. La musique sacrée nous conduit à l'autel, tout cela a un résultat. Ici, l'excitation, excitation pure, sans but. C'est de là que viennent les dangers de la musique et ses conséquences parfois épouvantables. En Chine, la musique est un monopole du gouvernement et c'est ainsi qu'il devrait en être partout. Est-ce qu'il devrait être permis qu'une personne puisse en hypnotiser tant d'autres et en obtenir ensuite tout ce qu'elle voudra? Et surtout, que ce charmeur soit le premier venu, un être immoral quelconque. Aujourd'hui, c'est une puissance terrible entre les mains de chacun. Cette sonate à Kreutzer, par exemple, le premier presto, et il en est beaucoup de semblables, devrait-on le jouer en société, quand on a autour de soi des dames décolletées, l'applaudir et passer ensuite à autre chose? Il faudrait jouer ces morceaux-là quand des occasions importantes, quand on veut provoquer des actions répondant au caractère de cette musique. Mais il est pernicieux au suprême chef de provoquer des sentiments qui ne peuvent et ne doivent se traduire en rien. Sur moi, du moins, cette musique a agi d'une façon singulière. Il me semblait être en proie à des sentiments nouveaux, posséder une puissance que je m'ignorais. Oui, c'est ainsi, et non comme j'ai vu et senti jusqu'à maintenant. Il en est bien ainsi, me disait une voix inconnue dans mon âme. Mais qu'était-ce le nouveau que j'appris? Je ne pouvais m'en rendre compte. Mais la conscience de cet état nouveau m'emplissait de joie. Les mêmes personnes, et parmi elles ma femme et lui, m'apparaissaient sous un tout autre jour. Après le presto, ils passèrent à l'andante, qui est bien, mais de vieux style, avec des variations banales, et au final, qui est faible. Puis, sur la demande des invités, ils jouèrent encore une élégie d'Ernst et divers autres morceaux. Ils étaient charmants, mais ne produisaient pas un centième de l'émotion produite par le premier. Non, je me sentis léger et joyeux dans la soirée. Quant à ma femme, je ne l'ai jamais vue telle. Ses yeux brillants, ce sérieux, cette expression de dignité pendant qu'elle jouait, puis ce sourire doux, touchant et plein de bonheur. Je vis tout cela, mais sans y attacher une grande importance, persuadé qu'elle avait senti, comme moi, germer en son âme des sentiments jusque-là inconnus. La soirée se passa dans les meilleures dispositions, et nos hôtes se retirèrent. Sachant que je devais partir 2 jours après pour l'assemblée du Zemstvo, Tulchatchevski, prenant ses partitions au moment de s'en aller, m'exprima l'espoir de répéter le plaisir de cette soirée à son prochain passage à Moscou. J'en conclus qu'il comprenait l'impossibilité de venir chez moi pendant mon absence et j'en fus content. Son départ de Moscou devait précéder mon retour. Il est évident que nous ne nous reverrions plus et nous prîmes définitivement congé l'un de l'autre. Pour la première fois, je lui serrai la main avec un réel plaisir et je le remerciai de l'agrément qu'il m'avait procuré. Il prit également congé de ma femme, dont les manières me semblèrent simples et naturelles. Tout était donc pour le mieux, ma femme et moi, nous étions tous deux ravis de notre soirée. 2 jours plus tard, je quittai ma femme et je partis pour l'assemblée dans le meilleur état d'esprit. Au chef-lieu du district, j'avais toujours nombre d'affaires à expédier. 2 jours de suite, j'eus des séances de 10 heures. Le second jour, on m'apporta à la chancellerie du Zemstvo une lettre de ma femme. Je la lus aussitôt. Elle me parlait des enfants, de l'oncle, de la nourrice, d'achat, et entre autres choses, le plus naturellement du monde, d'une visite de Tuchachevski qui lui avait apporté les partitions promises. Il lui avait proposé de jouer encore, mais elle avait refusé. Je ne pouvais me rappeler qu'il eût promis les partitions. Il m'avait semblé au contraire qu'il avait pris définitivement congé. Aussi fus-je surpris désagréablement. Mais j'étais si absorbé par mes affaires que je n'eus pas le temps d'y songer. Le soir, en rentrant à l'hôtel, je relus la lettre. Outre que Tuchachevski était revenu en mon absence, le ton de la lettre semblait avoir quelque chose de forcé. La jalousie se mit à rugir en moi comme un fauve en son repaire, prêt à bondir au dehors. Mais j'en eus peur et je la contins. Quel abominable sentiment que la jalousie, qu'y avait-il de plus naturel que ce qu'elle écrivait, pensais-je. Je me couchai et me mis à songer aux affaires du lendemain. D'ordinaire, j'avais le sommeil difficile pendant ces assemblées du Zemsvo. Ce soir-là, je m'endormis immédiatement. Mais, comme cela arrive parfois, une brusque commotion me réveilla. Ma pensée se porta aussitôt vers elle, vers mon amour sensuel pour elle, vers Tukhachevski. Je pensais qu'il s'entendait. La rage et l'épouvante m'envahirent de nouveau. Je tentais néanmoins de me calmer. C'est fou, me disais-je. Il n'y a pas le moindre motif de jalousie. Il n'y a rien, rien entre eux. Pourquoi nous avilir ainsi, moi surtout, en de telles suppositions? Quelque chose comme un violoneux payé, ayant la réputation d'un vaurien, et d'autre part, une femme honnête, respectable, ma femme à moi. Mais c'est absurde. Mais cependant, je me répétais, pourquoi cette chose serait-elle impossible? Pourquoi? N'est-ce pas là le même sentiment qui m'a poussé au mariage avec elle? La même seule chose que je voulais d'elle, que d'autres désirs, que ce musicien aussi. Il est célibataire, robuste. J'avais vu comme il brisait avec ses dents les cartilages d'une côtelette et comment il trempait avidement dans le vin ses lèvres rouges. Bien nourri, et s'il a un principe, c'est évidemment celui de ne manquer aucune jouissance. La musique, c'est excitant. Raffiné de la volupté, un lien entre eux. Qu'est-ce qu'il retiendrait? Rien. Tout l'attire, au contraire. Et elle? Elle est comme elle a toujours été. Une énigme restée indéchiffrable pour moi. Je ne connais d'elle que sa nature animale, et un animal ne peut ni ne doit se retenir et être retenu par rien. Je me rappelais alors l'expression de leur physionomie quand, après la sonate à Kreutzer, ils avaient joué un morceau passionné de je ne sais plus qui, un morceau sensuel jusqu'à la lubricité. Mais comment ai-je pu partir, me disais-je, en songeant à cette expression? N'était-il pas clair que l'accord avait été conclu entre eux ce soir-là? N'apparaissait-il pas nettement que plus rien ne les séparait et que ce qui s'était passé les avait mis tous deux, elle surtout, dans un certain embarras? Je la revoyais avec son sourire doux et heureux, essuyant son visage coloré et baigné de sueur. Leur regard se fuyait, et ce ne fut qu'au souper, quand il lui versa un peu d'eau, qu'ils échangèrent dans un regard un sourire imperceptible. Je me les rappelais avec terreur, ce regard et ce sourire à peine perceptible. « C'en est fait !» me disait une voix, tandis qu'une autre criait « Mais c'est une idée fixe, cette chose est impossible !» L'obscurité me pesait. J'allumai une bougie. Une grande inquiétude m'envahit à la vue de cette petite chambre à tapisserie jaunâtre. J'allumai une cigarette et, comme on fait toujours quand on est enlisé dans un bourbier de contradictions, je fumai une cigarette après l'autre pour m'étourdir et me cacher ces contradictions. Je ne pus me rendormir de la nuit et vers 5 heures, alors qu'il ne faisait pas jour encore, je résolus, pour ne point rester plus longtemps dans ce pénible état d'esprit, de partir sur le champ. Je réveillai le portier et le priai d'aller me chercher une voiture. J'envoyai à l'assemblée du Zemsvo une lettre disant que j'étais rappelé à Moscou pour une affaire urgente, qu'on voulut bien me faire remplacer par un autre membre. À 8 heures, je montai en tarantas et je partis. « Le conducteur entra et, s'apercevant que la bougie de la lanterne était au bout de sa mèche, l'éteignit sans en mettre une nouvelle. Le jour commençait à poindre. Poznichev se tut, soupirant péniblement durant la présence du conducteur, et ne reprit son récit que lorsque le conducteur fut sorti. L'on n'entendit plus que la trépidation des vitres du wagon en marche et le ronflement rythmique du commis. Dans la pénombre de l'aube, je ne distinguais plus du tout les traits de Poznichev. Je n'entendais que sa voix, de plus en plus émue et douloureuse. J'avais 35 verstes à faire en voiture et 8 heures de chemin de fer. Le voyage en voiture fut charmant. On était en automne, il faisait froid, mais le soleil brillait. Les roues traçaient une ornière sur la route bien unie. Le soleil était clair, la brise fraîche. Le tarantas était confortable et dans ma contemplation des chevaux, des champs et des passants, j'oubliais complètement où j'allais. À moitié route, je fus distrait par un incident. Une pièce du tarantas se brisa. Il fallut la remplacer. Cet incident eut pour suite le fait que je suis arrivé à Moscou, non à 5 heures du soir, comme j'avais compté, mais à minuit. Et je n'arrivais chez moi que vers 1 heure du matin. La recherche d'un abri, les réparations, le paiement, le thé à l'auberge, la causette avec le portier, tout cela fut pour moi une diversion agréable. Le soir, une fois tout terminé, je repris mon voyage, plein de nouveaux attraits. La lune était à son premier quartier, il gelait un peu, les chemins étaient bons, les chevaux vifs, le postillon bavard. J'allais ainsi, le cœur content, peu préoccupé de ce que j'allais trouver. Peut-être aussi en avais-je l'intuition, et ma gaieté venait-elle de ce que j'allais dire adieu au plaisir de la vie. Mais ce calme, cette absence de préoccupation, cessèrent dès que je descendis de voiture. À peine monté en wagon, ce fut tout autre chose. Ces 8 heures de chemin de fer furent pour moi vraiment terribles. Je ne les oublierai pas de ma vie. Cela venait-il de la pensée qu'en montant en wagon, je me figurais déjà d'être rentré chez moi, ou de la trépidation excitante du train? Toujours est-il que, dès que je fus en wagon, il me devint impossible de maîtriser mon imagination. Elle m'emporta à travers des images plus cyniques les unes que les autres, toutes distinctes, quoique de même nature, faisant défiler devant ma jalousie portée au comble toutes les scènes qui se passaient là-bas en mon absence. Je brûlais d'indignation à la vue de ces images. La rage et je ne sais quelle ivresse de ma propre humiliation m'étreignaient fortement, et toujours ces images que je ne pouvais chasser, toujours là, devant moi, me hantant. Plus je les voyais, plus je croyais à leur réalité, oubliant qu'elles étaient sans consistance aucune. Je ne voulais pour preuve de leur existence que la précision que j'y voyais. On eût dit que, malgré ma volonté, un démon inventait et me soufflait les fictions les plus effrayantes. Il me revint en mémoire une conversation, depuis longtemps oubliée, que j'avais eue un jour avec un frère de Trouachevski. Je me torturais le cœur avec enivrement en rapportant cette conversation au cas du violoniste et de ma femme. Oui, elle datait de longtemps, mais je m'en souvenais bien. Le frère de Trouachevski, auquel j'avais demandé s'il fréquentait les maisons publiques, me répondit qu'un homme qui se respecte ne va pas dans les endroits sales et vils où l'on risque d'attraper des maladies, alors qu'il peut trouver une femme honnête. Et son frère, le musicien, l'avait trouvé, la femme honnête. Plus de la première jeunesse, il est vrai, avec une dent de moins sur le côté, devenue un peu épaisse, mais pas, on prend ce qu'on trouve. Il lui fait une faveur en la prenant pour maîtresse. Et du reste, elle ne menace pas sa chère santé. Non, c'est impossible, reprenais-je avec effroi. Rien de tel ne s'est passé. Je n'ai aucun motif pour le supposer. Ne m'a-t-elle pas dit que la seule pensée que je pouvais être jaloux était une honte pour elle? Elle l'a dit. Elle mentait, criait une voix intérieure, et la lutte recommençait. Il n'y avait que deux voyageurs dans le wagon où je me trouvais, une vieille dame et son mari, tous deux peu causeurs. Ils descendirent bientôt d'ailleurs et me laissèrent seul. J'étais comme une bête fauve en cage. Tantôt je me levais brusquement, je m'approchais de la fenêtre, tantôt je marchais d'un pas incertain, comme si j'avais espéré augmenter par mes efforts la vitesse du train. Ce wagon avec ses banquettes et ses vitres tremblait sans cesse, tout comme celui-ci. Ah, c'est beau, Poznichev se dressa, parcourut fiévreusement le wagon et de nouveau se rassit. Ah, comme je redoute les wagons de chemin de fer! L'épouvante me saisit, alors je voulais songer à autre chose, au maître de l'auberge où j'avais pris le thé, par exemple. À mes yeux apparaissait le portier avec sa grande barbe et son petit-fils qui était de l'âge de mon petit Vassia. Mon petit Vassia! Mon petit Vassia! Oh, il verra le violoniste embrasser sa mère! Mais que se passera-t-il dans sa pauvre petite âme? Mais que lui importe à elle? Elle aime! Et de nouveau, les images défilaient. Non, non, je vais penser à ma visite à l'hôpital. Oui, hier un malade s'est plaint du médecin, de celui qui a des moustaches comme celle de Trouchatchevski. Et avec effronterie, ils tous deux me trompaient quand ils disaient qu'ils partaient. Et cela recommençait. Oh, je souffrais horriblement. Mes tortures venaient surtout de mon ignorance, de mes doutes. Je ne savais s'il fallait la haïr ou l'aimer. Mais je souffrais à ce point que finalement, je ne savais plus que faire. Une idée me vint qui me plut. Me jeter sous les roues du train et en finir une bonne fois. Une seule chose arrêta l'exécution de mon plan. Ce fut la pitié que j'éprouvais pour moi-même. Pitié qui fit naître une haine acharnée contre elle. Je n'avais envers lui qu'un sentiment étrange de mon humiliation et de sa victoire, mais elle, je la haïssais. Non, je ne la laisserai pas par ma disparition libre d'elle-même. Il faut qu'elle souffre aussi, qu'elle se rende compte des souffrances que j'ai endurées. Je sortais à tous les arrêts pour me distraire de mes pensées. À une gare, comme je vis qu'on buvait au buffet, j'allais absorber un verre de vodka. À côté de moi, un juif buvait. Il se mit à me parler et, pour ne pas remonter seul dans mon wagon, je le suivis dans sa troisième classe, pleine de fumée, sale, le plancher jonché de pelures de graines de tournesol. Je pris place à ses côtés, et il me raconta des anecdotes. J'écoutais, mais sans suivre son récit, absorbé que j'étais par mes pensées. Il s'en aperçut et voulut de nouveau attirer mon attention. Je me levai alors et remontai à mon wagon. Je voulais réfléchir et voir si vraiment j'avais raison de me tourmenter. Je m'assis pour être plus calme, mais immédiatement mon raisonnement s'envola et les mêmes images se succédèrent devant mes yeux. Combien de fois je m'étais déjà mis à la torture dans mes accès antérieurs de jalousie, et toujours, sans le moindre motif, pour rien. Sans doute, il en est de même aujourd'hui, sûrement, pensais-je. Je vais la trouver endormie, elle se réveillera et sera heureuse. Et par ses paroles, par ses regards, je me convaincrai qu'il n'est rien arrivé, que mes inquiétudes étaient vaines. Oh, que ce serait beau! Mais non, il en a été trop souvent ainsi, insinue une voix aujourd'hui, c'en est fait. et mon supplice recommençait. Quel martyr! Ce n'est pas dans un hôpital de syphilitique que je conduirai un jeune homme pour le dégoûter des femmes, mais dans une âme troublée comme la mienne, pour qu'il voie quel démon la déchire. La chose horrible, c'est que je ne me reconnaissais sur son corps un croix indiscutable, comme si elle eût été ma propre chair. Et cependant, je sentais que je ne tenais pas ce corps à mon pouvoir, qu'il ne m'appartenait point, que l'on pouvait disposer à sa volonté, et que sa volonté n'était pas conforme à mes désirs. J'étais désarmé envers lui, et plus encore envers elle. Si elle n'a pas failli, mais si elle en a le désir, et je sais qu'elle en a, c'est bien pire. Mieux vaudrait que la faute fût commise et que je sorte enfin de ce doute affreux. Je ne pouvais pas formuler ce que je souhaitais. J'aurais désiré qu'elle ne voulût point ce qu'elle devait forcément vouloir. C'était pure folie. À l'avant-dernière station, quand le conducteur prit les billets, je rassemblais mes bagages et passais sur la petite plateforme du wagon. L'approche du dénouement augmentait ma fièvre. J'avais froid, je frissonnais de tout mon corps, mes dents claquaient. Machinalement, je sortis de la gare avec la foule et pris une voiture pour me rendre chez moi. Durant le trajet, j'observais les rares passants, les portiers. Je lus les enseignes sans penser à rien. Quand j'eus fait une demi-verste, j'éprouvais un froid aux pieds très vif. Je me souvins que j'avais retiré mes chaussettes de laine dans le wagon et que je les avais mises dans la valise. Et était-elle là? Oui. Et la malle? J'avais totalement oublié mes bagages. Je sortis mon bulletin, mais j'estimais qu'il ne valait pas la peine de rebrousser chemin. Je ne sais plus vraiment, à l'heure actuelle, ce que je pensais ni voulais. Je sais seulement que je sentais se préparer pour moi quelque chose de terrible, un événement d'une importance capitale, mais je ne me rappelle plus si j'étais le jouet de mon imagination et si je m'exagérais la gravité de ce qui allait arriver. Peut-être aussi ce tragique événement a-t-il jeté sur les heures qui l'ont précédé un voile lugubre. La voiture s'arrêta devant le perron qui menait à l'escalier de mon appartement. Il était entre minuit et 1 heure. Devant la porte, quelques fiacres stationnaient, dont les cochers avaient été attirés par les fenêtres éclairées, les fenêtres de notre salon et de notre salle à manger. Sans essayer de comprendre pourquoi nos fenêtres étaient éclairées si tard, étreint toujours par la même angoisse, je montai l'escalier et je sonnai. Yegor, un domestique brave et zélé, mais fort bête, vint ouvrir. La première chose qui frappa mes regards fut le manteau suspendu dans le vestibule avec d'autres vêtements. Cela aurait dû m'étonner, mais non, je m'y attendais. C'était donc vrai. « Qu'est-ce qui est là, Yegor ?»« Oh, monsieur Trochachevski. »« Et personne d'autre ?»« Oh, personne, monsieur. » Il me fit cette réponse d'un ton joyeux, je m'en souviens, comme s'il eût voulu me faire plaisir et me persuader qu'il n'y avait pas d'autre personne. C'est bien cela, pensais-je. Et les enfants, oh Dieu merci, ils sont en parfaite santé et dorment depuis longtemps. J'avais peine à respirer, mes dents claquaient. Autrefois, il m'était arrivé de revenir chez moi croyant à un malheur et de retrouver tout dans son train normal. Il n'en était pas cette fois de même. Toutes les images que j'avais crues trompeuses et qui avaient hanté mon imagination étaient bien réelles. J'étais sur le point de sangloter, mais mon démon me souffla à l'oreille. C'est cela, laisse-toi aller aux pleurs, à la sensibilité. Et pendant ce temps-là, ils se sépareront paisiblement, tu resteras sans preuve, et te voilà condamné au doute, à la souffrance éternelle. Immédiatement, ma pitié pour moi-même disparut, et un sentiment de joie de voir la fin de mes tortures, de pouvoir la châtier et me débarrasser d'elle, de donner libre cours à ma colère, et ma colère s'exaspéra. Je fus pris du besoin irrésistible de commettre un acte de fauve, méchant et rusé. « Non, c'est inutile, » dis-je à Igor qui voulait m'annoncer. « Prends plutôt ce bulletin et va à la gare retirer mes bagages. Dépêche-toi. » Il alla dans le corridor chercher son paletot. De peur qu'il ordonnât l'éveil, je l'accompagnai dans sa chambre et j'attendis qu'il fût habillé. À côté, dans la salle à manger, on entendait le bruit des voix qui se mêlaient au cliquetis des fourchettes et des couteaux. Il soupait et n'avait pas entendu mon coup de sonnette. Pourvu qu'il ne sorte pas maintenant, pensais-je. Yegor mit son pardessus et sortit. Je fermai la porte derrière lui. Dès que je fus seul, une anxiété profonde m'envahit à l'idée qu'il me fallait agir à l'instant même. Agir, mais comment? Je ne savais pas encore. Je savais seulement que tout était fini, qu'il n'était plus possible de douter de son crime et que toutes mes relations avec elle allaient cesser. Jusqu'alors, j'avais douté. Je m'étais dit que cela n'était pas vrai, que je me trompais. Cette fois, plus de doute. Le sort en est jeté. Comment, en secret, seul avec lui, la nuit? Un complet oubli de tout, pis encore, mais c'est une audace, une imprudence voulue, pour que cet excès démontre son innocence. C'est clair, le doute est impossible. J'avais une crainte, c'était de les voir se séparer et trouver une autre duperie qui m'eût privé de la preuve palpable et m'eût enlevé le douloureux plaisir de les condamner et de les punir. Je marchais pour les surprendre, sur la pointe des pieds, non par le salon, mais par le corridor et les chambres des enfants. Dans la première dormaient les garçons, dans la seconde, la nourrice, qui fit un mouvement et parut vouloir se réveiller. Je me demandais quelle serait sa pensée quand elle saurait tout, et je fus pris d'une telle pitié pour moi-même que des larmes jaillirent de mes yeux. Pour ne point éveiller les enfants, je repassai dans le corridor sur la pointe des pieds et j'allais m'affaisser sur le sofa de mon cabinet. Moi, élevé en honnête homme par mes parents, moi, qui avais rêvé toute ma vie de bonheur conjugal et de fidélité, moi, avoir une telle destinée. 5 enfants, et elle embrasse ce musicien parce qu'il a les lèvres roses. Non, c'est pas une femme, c'est une chienne, une ignoble chienne. Et c'est là, près de la chambre des enfants, qu'elle a toujours fait semblant d'aimer. Et cette lettre qu'elle m'a écrite, et que sais-je, peut-être en a-t-il été toujours ainsi. Peut-être que ces enfants que je crois bien sont les enfants d'un domestique. Mais si j'étais revenu demain, elle se serait portée à ma rencontre, dans un costume et une coiffure plein de coquetterie, avec ses mouvements indolents et gracieux. Et je voyais nettement sa figure si charmante et si méprisable. Et la jalousie, ce cancer dévorant, déchiquetait mon cœur. Mais que penseront la nourrice et Yegor et cette pauvre petite Lisa? Elle comprend déjà. Et cette impudence, ces mensonges, cette sensualité bestiale que je connais si bien. Je voulus me lever, je ne pus. Les battements de mon cœur étaient si violents que je ne pouvais tenir sur mes jambes. Oui, je mourrais d'une congestion et c'est elle qui m'aura tué. C'est ce qu'elle veut. Oh, mais je ne me laisserai point tuer ainsi. Elle en serait trop aise, et je ne lui accorderai pas ce plaisir. Me voilà ici, moi, et eux, là-bas, ils rient. Oui, il ne l'a point dédaignée, malgré son âge mûr. Il la trouve encore bien, et certes, elle n'aura aucune influence pernicieuse sur sa chère santé. Oh, pourquoi ne pas l'avoir étranglée le jour de la semaine dernière, où je la jetais à la porte de mon cabinet? Je me souviens des sentiments qui m'avaient agité alors. Bien plus, je retombais dans cette même fureur. J'éprouvais un besoin irrésistible d'agir. Tous mes raisonnements disparurent à l'exception de ceux qui concouraient à mon action. J'étais comme un fauve aux abois, comme un homme exaucé à un grave danger, qui va droit devant lui, agissant sans hésitation et sans trouble, sans quitter des yeux le but à atteindre. J'ôtais d'abord mes bottes et j'allais en chaussettes vers la panoplie qui surmontait le canapé. Je pris un poignard de damas à lame aiguisée, vierge de sang. Je le tirai de son fourreau et celui-ci, je m'en souviens comme si ça datait d'hier, tomba derrière le canapé. Mais me dit que je le ramasserai plus tard. Puis je quittai mon pardessus, que j'avais encore, et je sortis doucement en chaussettes. Arrivé jusqu'à la porte, je l'ouvris brusquement. Je me rappelle l'expression de leur physionomie. Et je me la rappelle car elle fut pour moi une joie cuisante. Une expression de terreur, naturellement, comme je le désirais. Jamais je n'oublierai cet effroi désespéré qui se peignit sur leurs traits à ma soudaine apparition. Lui était assis à table, je crois, et quand il me vit ou m'entendit entrer, il ne fit qu'un bond jusqu'au buffet. La peur était le seul sentiment que trahit sa physionomie. Sur le visage de ma femme, outre de la peur, se lisaient d'autres impressions dont l'absence eût peut-être écarté l'événement fatal, car ces impressions me parurent être le mécontentement et la colère d'être dérangé dans son bonheur et dans son ivresse amoureuse. On eût dit qu'elle ne désirait qu'une chose, ne pas être troublée au moment où elle allait goûter le bonheur. Ces expressions ne furent que fugitives. Sur le visage du violoniste, la terreur fit place à l'interrogation. Si on pouvait encore mentir, il fallait le faire tout de suite, ou bien s'y prendre autrement, mais comment ? Il l'interrogea du regard, elle le regarda aussi, et immédiatement son expression de colère et de dépit se transforma en une inquiétude pour lui. Me restait un instant contre la porte, debout, le poignard caché derrière le dos. Tout à coup, il sourit et d'un ton d'indifférence, vraiment ridicule en cet instant, il dit « Nous venons de faire un peu de musique. Oh, »« Quelle surprise » ajouta-t-elle sur le même ton. Ils n'osèrent continuer. Je fus saisi de la même fureur qui m'avait dominé 8 jours plus tôt. J'éprouvais de nouveau le besoin de destruction, de laisser libre cours à ma violence. Je sentis les délices de cette fureur et je m'y laissai aller complètement. Tous deux s'arrêtèrent court, car ce dont ils avaient peur allait commencer et ruiner tout ce qu'ils pouvaient dire. Je me précipitai sur elle, cachant toujours mon poignard, pour qu'il ne m'empêchât pas de la frapper à l'endroit choisi sous le sein. Il remarqua mon mouvement et, ce à quoi je ne m'attendais pas de sa part, il se jeta vers moi, me saisit par le bras et s'écria « Mais revenez à vous, le grâce, au secours !» Je m'arrachai de ses mains et je fondis sur lui. Je devais paraître terrible, car il devint pâle comme la mort. Ses yeux eurent un reflet singulier, et, ce à quoi je me serais non plus jamais attendu, il gagna lestement la porte en filant par-dessus le piano. Je voulus le poursuivre, mais un poids s'abattit sur mon bras gauche. C'était elle. Je fis un effort pour me dégager. Elle se suspendit plus lourdement et ne me lâcha pas. Cet obstacle inattendu, ce poids, ce contact abhorré et augmentèrent ma rage. Je sentis que je devenais fou, que je devais paraître effroyable, et cela m'exalta davantage. Je pris mon élan, et avec le coude de mon bras gauche, je lui donnai un coup violent, en pleine figure. Elle poussa un cri et me lâcha. Je voulais, j'allais le poursuivre, lui, mais j'étais en chaussette, et il eût été grotesque de poursuivre en chaussette l'amant de ma femme. Je voulais être terrible, mais non ridicule. Malgré ma fureur extrême, je me préoccupais constamment de l'impression que je produisais sur les autres, et de même, cette impression influait, dans une certaine mesure, sur ma conduite. Je me retournai vers elle. Elle était tombée sur le sofa, et la main sur la partie contusionnée de son visage, elle me regarda. Son regard exprima la peur et la haine, le regard d'un rat à la personne qui va soulever le piège dans lequel il est pris. Du moins, ne puis-je voir chez elle que cette peur et cette haine qui avaient provoqué son amour pour un autre. Peut-être rien ne se fût-il passé si elle s'était tue, mais subitement, elle parla, cherchant à s'emparer de la main dans laquelle je tenais le poignard. « Mais reprends tes sens, que fais-tu? Qu'as-tu? Il n'y a rien, n'y a rien, je te le jure !» J'aurais encore hésité, mais ces paroles, où je sentais le mensonge et qui me prouvaient le contraire de ce qu'elle disait, ces paroles méritaient une réponse. Cette réponse devait être sur le ton de ma fureur toujours croissante. La fureur aussi a ses lois. « Ne mens pas, misérable, ne mens pas !» m'écriai-je en la saisissant par la main. Elle se dégagea. Alors, sans quitter mon poignard, je la saisis à la gorge et la terrassai pour l'étrangler. Ses deux mains se cramponnèrent aux miennes pour dégager sa gorge râlant. C'est alors que, comme escomptant ce geste, que je lui plongeai mon poignard dans le côté gauche, au-dessous des côtes. Ceux qui prétendent qu'on ne peut se souvenir de ce qu'on a fait dans un accès de fureur avance une stupidité et un mensonge. Je n'ai pas perdu un seul instant la conscience de ce que je faisais. Plus j'attisais ma rage, plus je voyais nettement ce que je faisais. Je ne me suis pas oublié une seconde. Je ne dis pas que j'ai prévu ce que j'allais faire, mais à la seconde même où je l'exécutais, j'en ai eu conscience, peut-être même un peu avant. Je savais ce que je faisais, prévoyant la possibilité du repentir, et comme pour me dire par la suite que je pouvais m'arrêter à volonté, je savais que je portais le cou au-dessous des côtes et que le poignard pénétrerait. Sur l'instant même, je savais que je commettais un acte horrible tel que je n'en avais jamais commis, et gros d'épouvantables conséquences. Mais cette conscience fut rapide comme l'éclair, et l'acte suivit immédiatement. Je me rendis compte de cette action avec une clarté extraordinaire. Je revois toute la scène, la résistance du corset, d'un autre objet encore, puis le poignard s'enfonçant dans la chair molle. Elle avait voulu saisir le poignard dans ses mains, s'était blessée, mais n'avait pu l'arrêter. Plus tard, en prison, quand une révolution morale se fut faite en moi, je revis cette minute et je me demandais quelle aurait pu être ma conduite. J'ai encore en mémoire l'instant qui précéda cette action terrible, la notion exacte que j'avais, que j'allais tuer une femme sans défense, ma femme. Le souvenir de ce sentiment m'obsède encore, et je crois me rappeler que je retirai tout de suite le poignard comme pour réparer ce que je venais de faire. Durant une seconde, je demeurai immobile, dans l'attente de ce qui va se passer, de la possibilité de réparer mon acte, Et elle se dressa et s'écria « Nourrice, il m'a assassiné !» La nourrice qui avait entendu le bruit était entrée. J'étais debout, espérant, ne voulant pas croire à ce qui était arrivé. À ce moment, un flot de sang jaillit sous son corset. Je compris que l'événement était irréparable, et je décidai aussitôt qu'il valait mieux ainsi que j'ai commis l'acte qui s'imposait. Je restai immobile jusqu'à ce qu'elle tombât. La nourrice courut vers elle en s'écriant « Grand Dieu !» Alors seulement je jetai le poignard et je quittai la chambre. Pas de trouble, m'étais-je dit, conservons la notion de ce que nous faisons. Et sans regarder la nourrice, je sortis. Celle-ci poussa des cris, appelant la femme de chambre. Je traversai le corridor, j'envoyai la femme de chambre près de sa maîtresse, et je rentrai dans mon cabinet. Que faire? Me demandai-je alors, et je le vis immédiatement. J'allai directement à la panoplie, je pris un revolver, je l'examinai, il était chargé, je le posai sur la table, puis je ramassai le fourreau du poignard et je m'assis sur le canapé. Je restai longtemps ainsi, sans pensée aucune. J'entendis un bruit de pas, d'objets remués, et au dehors l'arrivée d'une voiture, puis d'une seconde voiture. Puis Igor apporta ma malle, comme si j'en avais besoin. « As-tu appris ce qui est arrivé ?» lui demandai-je. « Dis au concierge d'aller prévenir la police. » Il ne répondit rien et sortit. Je me levai, je fermai la porte, je pris les allumettes et les cigarettes et je me mis à fumer. Je n'avais pas fini la première cigarette que le sommeil me gagna. Je dormis bien 2 heures. Je rêvais, je m'en souviens que j'étais en bonne harmonie avec elle, qu'après une querelle, nous allons faire la paix lorsqu'un obstacle venait nous en empêcher. Mais nous étions amis. Un coup frappé à la porte me réveilla. « Oh, c'est la police, » pensais-je, en secouant ma torpeur, « car j'ai assassiné, je crois. Peut-être aussi est-ce elle, n'est-il rien arrivé ?» On frappa de nouveau, je ne répondis pas. Je me demanderai toujours si c'était réellement arrivé ou non. Oui, c'était bien vrai, la résistance du corset, et puis... Oui, c'était vrai. Ah, c'était à mon tour de me tuer, pensais-je. Ben, je le pensais, je savais bien que je ne le ferais pas. Pourtant, je me levai et pris le revolver. Chose étrange, j'avais souvent été bien près du suicide, cette nuit même en chemin de fer, parce que je croyais que ce serait un rude coup pour elle. Et maintenant, je n'étais pas capable de me tuer. J'en repoussais même l'idée. Pourquoi donc le ferais-je? Me demandai-je. Et je ne trouvais pas de réponse. On frappa de nouveau. Voyons, qui frappe d'abord? Me dis-je, j'ai le temps. Je remis le revolver sur la table, je le cachai sous un journal. J'allai à la porte et je tirai le verrou. C'était la sœur de ma femme, une veuve bonne et simple. « Voici, ah, qu'est-ce » dit-elle, et ses larmes toujours faciles coulèrent abondamment. « Mais qu'est-ce que vous voulez ?» demandai-je rudement. Je sentais bien que je n'avais aucune raison d'être grossier, mais je ne pus prendre un autre ton. « Voici, ah, elle se meurt, Ivan Halievitch l'a dit. » Ivan Halievitch était son médecin et son conseiller. « Oh, il est donc ici, m'informai-je. » Et toute ma haine contre elle se réveilla. « Eh bien, quoi? Vassia, va la trouver. Oh, quelle chose horrible! Allez la trouver, me demandai-je. Et je pensais tout de suite qu'il fallait y aller et qu'il devait en être ainsi toutes les fois qu'un mari comme moi tuait sa femme. Puis je me dis, songeant à mon intention de me suicider, « Bon, s'il le faut, j'aurai toujours le temps. » Et je suis ma belle-sœur en me disant, « Ah, les effusions, les grimaces vont commencer, mais je ne me laisserai pas affecter. » « Attends donc, dis-je à ma belle-sœur, laisse-moi au moins mettre mes pantoufles. J'ai l'air trop bête en chaussettes. » Chose étrange, en quittant mon cabinet, en traversant ces pièces que je connaissais si bien, j'eus de nouveau l'espoir que j'avais fait un mauvais rêve. Mais l'odeur de toutes ces drogues, iodoforme, acide phénique, me ramena à la réalité. Non, ce n'était pas un cauchemar. En traversant le corridor, près de la chambre des enfants, j'aperçus Lisa. Elle me regarda avec de grands yeux épouvantés. Il me sembla voir les cinq enfants m'adresser ce même regard. J'arrivai à la porte, la femme de chambre ouvrit et sortit. La première chose que j'aperçus fut sa robe gris clair sur une chaise toute tachée de sang. Elle était sur notre lit, les genoux pliés, presque droite, soutenue par des coussins, la camisole ouverte. La blessure était pansée, l'odeur de l'iodoforme emplissait la chambre. Ce qui me frappa le plus, c'est le bleu qu'elle avait sur une partie du nez et sur l'œil. C'était la trace du coup que je lui portais lorsque je cherchais à me dégager de son étreinte. Sa beauté avait disparu et je remarquais en elle quelque chose de repoussant. Je m'arrêtai sur le seuil. « Viens, approche donc, » me dit ma belle-sœur. J'approchai. « Elle veut se repentir, sans doute. Faut-il pardonner ?»« Oui, car elle se meurt, » pensais-je, voulant être généreux. J'allai auprès d'elle. Elle leva péniblement sur moi ses yeux dont un était huméfié et me dit avec difficulté « Tu as atteint ton but, tu m'as tué. » À travers la douleur physique qui se peignait sur ses traits, perçait cette vieille haine bestiale que je connaissais tant. « Mes enfants, oh, tu les auras pas quand même. Ma sœur les gardera. » Pas un mot sur le point capital, sa faute, sa trahison, son crime. On eût dit qu'elle n'y attache pas d'importance. Oui, réjouis-toi, contemple ton œuvre. Elle porta son regard vers la porte où se tenaient ma belle-sœur et les enfants. À mon tour, je regardais les enfants, puis son visage battu et tuméfié, et pour la première fois, oubliant mes droits et mon orgueil, je vis en elle une créature humaine. Tout ce qui m'avait offensé me parut si peu de chose, et au contraire, mon acte me sembla si terrible que j'avais envie de tomber à ses pieds, de lui prendre la main et lui dire « Pardonne-moi ». Je n'osais pas. Elle se taisait, les yeux clos, n'ayant plus la force de parler. Puis son visage défiguré se contracta et elle me repoussa faiblement. « Pourquoi tout cela est-il arrivé ? Pardonne-moi, fis-je. Pardonnez, quelle sottise ! Que je vive seulement !» s'écria-t-elle en se soulevant et ses yeux brillèrent fiévreusement. « Mais tu as atteint ton but et je te hais. » Puis le délire commença. « Tire seulement, j'ai pas peur. Tue-nous tous, tue-le aussi, il est parti. Il est parti, va. Tue, je n'ai pas peur. » Son délire continua. Elle ne reconnut plus personne. Elle mourut le jour même vers midi. J'avais été arrêté avant à 8 heures du matin et conduit en prison. Là, j'ai attendu 11 mois le jugement. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai appris à me connaître. 3 jours après mon arrestation, on me conduisit chez moi. Il voulait continuer, des sanglots étouffèrent sa voix. Mais ayant repris son sang-froid, il continua. Je commençais à reconnaître mon erreur en la voyant dans le cercueil. Il poussa un sanglot, mais poursuivit hâtivement. Ce ne fut qu'en voyant son visage de morte que je compris bien la portée de mon acte. Je compris que c'était moi qui l'avais tuée, que c'était moi qui avais fait d'elle vivante, agissante, chaude, une chaude gisante, froide, immobile, et que rien ne saurait réparer mon acte. Celui qui n'a pas subi de telles épreuves ne peut pas les comprendre. Oh, 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 fit-il à plusieurs reprises, et il se tut. Nous restâmes longtemps silencieux. Poznichev frissonnait et sanglotait. Son visage s'amincit, s'allongea et sa bouche s'élargit. « Oui, s'écria-t-il, si j'avais su alors ce que je sais aujourd'hui, il ne serait rien arrivé, je ne l'aurais pas épousé pour rien au monde, je ne me serais pas marié du tout, jamais. » De nouveau un silence prolongé. « Allons, pardonnez, fit-il enfin. » Il se détourna et s'allongea sur la banquette en se couvrant de son plaid. À la station où je devais descendre, il était 8 heures du matin, je m'approchai de lui pour prendre congé. Dormait-il ou faisait-il semblant de dormir? Mais il ne bougea pas. Je lui touchai le bras. Il se découvrit et j'aperçus qu'il n'avait pas dormi. « Adieu, » dis-je, en lui tendant la main. Il avança la sienne et me sourit, mais d'un sourire si navré que j'eus envie de pleurer. « Oui, pardonnez, » répéta-t-il, le mot par lequel il avait clos son récit.